Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo consacrés aujourd'hui à la pratique BDSM. Le BDSM définit toutes les pratiques sexuelles qui font intervenir le bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Si cette pratique compte beaucoup d'initiés, elle reste néanmoins éloignée de relations sexuelles conventionnelles. Elle demeure donc méconnue pour beaucoup, fantasmée pour certains, jugée sévèrement par d'autres. Je remercie aujourd'hui Nathalie Giraud-Desforges d'être parmi nous pour répondre à nos questions et nous faire une idée plus juste de cette pratique. Nathalie Desforges, bonjour.
Bonjour Émilie et bonjour à tous qui regardaient ou écoutaient.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous présenter brièvement, donc vous êtes entre autres sexothérapeute, également fondatrice du blog et site pimentrose.fr depuis 2003 et animatrice de stage tantra, femmes et couples. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Comment fonctionnent les relations BDSM?
Elles fonctionnent, donc comme vous l'avez dit, Émilie, les relations sont sur un mode de discipline. Hein, BDSM, c'est donc la pratique de la discipline du bondage, donc des liens ou de l'entrave, avec un prisme de domination-soumission. Il ne peut y avoir de domination sans soumission, il ne peut y avoir de soumission sans domination, sachant que s'il n'y a pas de soumis, il n'y a pas de dominant. Il peut y avoir une personne qui est dans ce rôle-là, mais la personne qui a le contrôle, c'est la personne qui est soumise, en fait. Pas le personne qui est dominant. Et le principe de sadomasochisme, c'est-à-dire d'aimer à recevoir ou d'avoir un contrôle sur la douleur et aimer aller dans l'exercice de la douleur, et sachant que la douleur a des niveaux extrêmement variés. Donc c'est un protocole, c'est une discipline, c'est un protocole avec des règles très strictes qui peuvent assurer, et d'ailleurs qui sont nécessaires pour assurer un cadre et donc une sécurité de cette et de ces pratiques. Et ces pratiques qui peuvent être extrêmement cérébrales, c'est-à-dire codifiées, avec presque des rituels et des entrées et une communication intense entre la personne qui reçoit et la personne qui donne, et un échange très précis, avec plein de safe words, donc des mots-clés ou des postures ou qui veulent dire « stop, ça y est, ça ne me va pas ». Et donc, c'est vraiment très lié, et ça peut sembler assez inhabituel, autour du fil rouge du consentement. S'il n'y a pas de consentement, on ne peut pas rentrer dans cette pratique. En tout cas, cette pratique est extrêmement protocolaire et basée sur le consentement. Ce n'est pas des pratiques où la personne va faire, ou le dominant ou la dominante va faire du mal pour un principe d'utiliser la personne qu'à son propre plaisir. Il y a vraiment un échange entre les deux. Et ça, c'est important de l'apprécier en quelque sorte dans ces pratiques BDSM, qui sont différentes, par exemple, du sexe un peu plus vanille ou kinky, comme on l'a vu dans 50 nuances de Grey.
Ouais, ce que j'allais vous dire. Ouais. Voilà,
qui a mis en lumière ou au cinéma le principe du BDSM avec l'utilisation d'entraves, de fouets, de griffures, de morsures, et où la douleur, avec la fessée par exemple, peut faire partie de ces pratiques comme un accès à une libération d'endorphines et à des états modifiés de conscience. Il y a des pratiques du kink quand on achète des menottes et on s'entrave. Ce n'est pas du BDSM, c'est plutôt un sexe un peu plus une sexualité un peu plus joueuse,
ouais,
qui utilise les entraves, mais qui n'est pas du BDSM. C'est-à-dire ceux qui pratiquent cette discipline regardent ceux qui pratiquent ces activités récréationnelles avec un peu de supériorité, on va dire.
Oui, donc ça a eu le mérite d'en parler, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de lien direct avec la pratique.
Bah, c'est comme si vous compariez l'utilisation d'un jouet, d'un sextoy comme un canard vibrant, avec un sextoy comme par exemple qui est beaucoup plus spécifique, moins girly ou moins animal. moins canard pour rentrer dans un sextoy, pour jouer, et qui assume son air de sextoy qui est plus phallique, par exemple. Voilà, du coup, la différence entre les deux.
Oui, il y a vraiment un décalage. Là, du coup, ben, c'est bien dans cette première explication. Déjà, on a compris qu'effectivement, au-delà de l'image que l'on peut avoir, donc c'est beaucoup de codes, un consentement qui est nécessaire, qui est vraiment primordial, et beaucoup de communication entre les deux partenaires.
Il ne peut y avoir, d'ailleurs, dans 50 nuances de gris, ça commence par un contrat qui est signé et négocié. Avant d'être signé, il est négocié. Parfois, il y a des règles de pratiques qui pourraient être extrêmement utiles à mettre au sein du couple, c'est-à-dire de la communication sur ce qui est-ce que j'aime pas, jusqu'à quel point, quelles sont les zones de mon corps qui peuvent être touchées ou rentrer en contact ou stimulées ou pas, est-ce qu'il y a des zones qui sont interdites, est-ce que je suis d'accord pour faire ça, ça et ça. Ok, je suis pas d'accord pour le faire maintenant, mais peut-être après. Cette communication, cette négociation, cette confiance dans la possibilité que l'autre a écouté ce que le ou la partenaire a dit, le prend en compte et à tout moment est dans. Et c'est là, c'est-à-dire que ce dialogue est là, cette conscience-là, donc conscience, confiance, communication est absolument essentielle, je veux dire, pour rentrer dans des pratiques dans lesquelles vous pouvez être entravé, par exemple, donc vous n'avez pas la possibilité de vous défendre physiquement, mais ça va être par le regard, ça va être par un geste, et ces mots-là sont extrêmement importants. Donc, et souvent dans les couples, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de négociation. Est-ce qu'on sait quelles zones du corps peuvent être approchées et d'autres pas? Est-ce qu'il y a du consentement? Pas vraiment consentement, j'ai donné la permission. Est-ce que j'ai conscience de demander? Est-ce que je vais donner ou est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais permettre? Souvent, tout ce climat-là, qui installe la confiance n'est justement pas abordé parce que c'est censé être inné parce qu'on s'aime.
Voilà, parce qu'on est alors que non.
Et ce que j'apprécie dans ces protocoles, c'est que ça donne une base sur laquelle peuvent évoluer les désirs et une plongée dans le désir, parce que c'est ce qu'on voit un peu dans les 50 nuances de gris, c'est que l'une plonge dans qu'est-ce que c'est que mon désir, comment est-ce qu'il est activé, qu'est-ce que ça va donner comme impulse ou pas.
Il peut y avoir des avenants après au contrat, quoi.
Exactement, il y a des avenants au contrat, mais un contrat pour qu'il existe, c'est parce qu'il y a des partenaires qui se mettent autour d'une table, discutent, mettent à plat et disent ça me va pas, ça se négocie, ça je l'enlève, ça je mets ça en appendix, ça je vais le mettre un chapitre un peu plus grand là-dessus, je vais me poser la question, je vais en parler à moi-même, voir ce que ça me fait, et je trouve ça très sain comme façon d'approcher la sexualité et son désir, ses désirs. Voilà.
Très bien. Donc, le consentement avant tout, bien sûr. Je le disais tout à l'heure en introduction, effectivement, c'est une pratique quand même qui reste un petit peu éloignée des relations sexuelles conventionnelles. Est-ce qu'elle est toutefois considérée comme normale?
Alors, elle fait partie, le BDSM fait partie d'une perversion, d'un catalogue de perversions depuis à peu près dans les années 1800, où ça fait partie de névroses qui peuvent être soignées, c'est-à-dire que si on a un sadomasochiste ou sadisme, le sadisme en lui-même par exemple, sad, n'a pas le consentement ni l'accord de ses victimes. Donc, du coup, on a non pas un sado et un maso, on a un sadique qui utilise ses victimes pour les personnes à ses fins propres, sans dire à la personne ce qu'il va faire, ni sans avoir son consentement. Donc là, c'est une perversion. D'accord ?
Oui, là, on comprend que c'est vraiment même éloigné, finalement, c'est pas du concept du protocole. Oui. Ouais.
C'est complètement pathologique et éloigné. Et il n'y a absolument pas de ni communication, ni ni cette ligne rouge qui est cette permission et l'autorisation. Il n'y en a pas. Donc, quand il n'y a ni autorisation ni permission, vous êtes dans un endroit où une personne utilise l'autre à ses fins pour son propre bénéfice en se fichant royalement de ce que l'autre, des désirs de l'autre. Et là, ça, c'est une perversion.
Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a un souci. D'accord.
C'est à ce moment-là qu'il y a un souci. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est une personne qui, pour faire plaisir à l'autre, va se faire du mal et ne va pas oser dire que ça ne va pas de peur de perdre cette personne. Donc là, on est dans un lien, si vous voulez, où c'est pour ça que c'est tellement important de communiquer, dans laquelle la personne se perd dans les désirs de l'autre.
Ça, c'est problématique.
Et ça, c'est extrêmement problématique. Et je dirais que c'est là où il peut y avoir des couples qui viennent me voir, puisque surtout après 50 nuances de Grey, ils se sont lancés dans le bondage, c'est-à-dire la pratique de lien. Là, on a retiré beaucoup de plaisir, celui ou celle qui emprisonne en quelque sorte, ou qui est dans la position du dominant ou de la dominante, ou de la maîtresse en quelque sorte, ou du maître, et ne peut pas compter. Et l'autre personne se retrouve, mais je voulais lui parler, mais je n'ai pas osé parce que je ne voulais pas lui manquer de respect, ou j'ai trop peur qu'il me quitte si je ne fais pas ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut.
Là, du coup, il y a un décalage
oui. total. Ouais. Et vous arrivez avec des bleus sur le corps, physique, mais aussi des bleus à l'âme en se disant « mais il faut que je dise non, mais je n'ai pas su dire non ». Et là, on vient en thérapie.
Oui, bien sûr. Là, même ça cause des problématiques qui n'existaient pas auparavant. Donc.
Oui, ça, puisque il n'y a pas eu la possibilité ni de poser un cadre très flou, ni de poser des limites.
Et d'où la nécessité de ne pas se lancer comme ça à la légère.
Ouais. C'est-à-dire d'avoir en soi vraiment un alignement qui fait, lorsque je dis non, mon non est entendu. Et à ce moment-là, je dis, dans la relation de couple, est-ce que les noms sont entendus ?
Parce que respectés.
Et respectés. Ou s'il y a transgression multiple, je ne sais pas moi, est-ce que tu as envie de faire l'amour ? Non, je n'ai pas envie de faire l'amour, pas ce soir, mais je te réveille dans la nuit et je fais l'amour. Et puis, oh bah oui, tiens, pourquoi pas ? Il y a une transgression du non.
Ouais.
Et donc, il y a une possibilité que si ça se passe là, ça se passe aussi dans le cadre du BDSM. Donc, je dirais, regardez où sont posées vos limites et comment est-ce qu'elles sont respectées et comment est-ce qu'elles sont respectées par l'autre, mais comment est-ce qu'elles sont respectées et posées par vous-même. Donc, cette prise de responsabilité.
C'est important.
Ouais. Soi. Voilà.
Important d'être bien aligné, justement. Sur tout cela, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à se lancer dans cette pratique ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des traits de caractère spécifiques de ces personnes-là qui sont peut-être plus prédisposées à tenter l'expérience ? Est-ce que ça dépend aussi du genre qui est soumis, qui ne l'est pas ? Est-ce que vous pouvez nous dresser une sorte de petit portrait ?
Alors, la première chose, c'est être dans une position de soumise avec la confiance et le consentement permet d'aller dans un lâcher-prise lorsqu'il y a beaucoup de contrôle autre part autrement. Donc, quand vous rentrez dans ce jeu entre adultes consentants qui est « je m'en remets à toi », en anglais, j'adore ce terme, c'est « surrender », je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, donc du coup, fais de moi ce que tu veux. Mais je sais que tu ne vas pas me faire de mal sciemment ou tu ne vas pas m'utiliser en m'humiliant sans que j'en ai envie, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, il y a une possibilité de lâcher prise là où une partie contrôlante est très forte et où, souvent à l'extérieur du couple, il y a des fonctions différentes ou des fonctions de pouvoir, de gestion, de contrôle où on ne peut pas se laisser aller. Et dans ce jeu-là, et dans ces protocoles-là, il y a une possibilité à l'un des partenaires
Inverser.
Inverser les rôles et de se retrouver en disant « Waouh, j'ai plus à penser, j'ai plus à me mettre dans cet état mental, je peux rentrer dans mon corps, me laisser faire ». Et donc, principalement, c'est la route aussi pour aller jouir, se laisser aller et jouir sans entrave. Notion de partie contrôlante, qui doit faire attention à l'autre, qui s'occupe de prendre en charge, de subvenir aux besoins, etc. Là, les rôles sont inversés. Et donc, ça peut faire beaucoup de bien dans le couple lorsque les règles sont connues et établies d'avance. Souvent, enfin, on a pu venir me voir dans mon cabinet en me disant, un homme venait me voir, il est venu me voir en me disant, mais je ne comprends pas, je rêve d'être dans une relation où je suis attachée. Et c'est un homme qui me possède, mais fondamentalement, moi, je suis bien avec ma femme, il est dans une position de responsabilité. Il s'occupe d'elle, il ne se laisse pas aller. Et ça parle de son désir de rentrer dans une polarité différente de ce qu'il a auparavant. Donc, parler par exemple à sa compagne de ce désir de se laisser aller, plutôt que de prendre soin d'elle tout le temps, a permis d'inverser les rôles et de faire entrevoir le bout de son désir qui est « mais tu sais, moi j'ai aussi envie que tu t'occupes de moi, quoi ».
Ouais, c'est important du coup de faire ce travail de réflexion, de savoir pourquoi je pense à ça, pourquoi je fantasme sur ça, et finalement ça permet de soulever des problématiques, mais voilà, des situations dans lesquelles au final au quotidien on qui nous sont inconfortables et qu'on a envie de changer.
Exactement. Ou alors par respect vers l'autre, le ou la partenaire ne dit pas ce qu'elle désire parce que ça serait manquer de respect à l'autre ou la peur de se dévoiler et que l'un ou l'autre perde son pouvoir ou de son piédestal. Donc vraiment, c'est pour ça que la communication est tellement importante sur son désir, les moteurs du désir. Qu'est-ce qui se passe si je montre ça de moi? Voilà mes craintes, voilà mes appréhensions, ce que j'ai pas osé te dire. Et ma crainte, c'est que tu t'éloignes de moi, tu te moques de moi. J'ai besoin que tu m'écoutes sans rien dire. Ou aller en... Ce que je donne aussi comme petit conseil, c'est s'il y a quelque chose, une pratique qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr de votre partenaire, c'est d'aller dire, tiens, mais tu sais quoi, j'ai écouté, je suis tombée par hasard sur un podcast, tiens, j'ai lu un truc qui passait comme ça, waouh, j'étais chez le dentiste, j'ai lu un magazine féminin qui parlait de ça, ça m'a vraiment interpellée, j'ai lu ces témoignages, donc c'est pas moi, hein, soyons clairs.
Ouais. Et observer la réaction, ça m'est tombé dessus comme ça.
Oui, voilà, c'est ça, et puis franchement... ça m'a interpellée, voire même ça m'a un peu titillée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et puis, hop.
Scruter la réaction de l'autre.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est un bon conseil.
C'est tester un peu tester la température pour savoir si on est dans une eau très très froide. Et alors, pour la réchauffer, ça va prendre du temps. Ou alors, si c'était déjà légèrement tiède, prête à frémir, et vous pouvez aller frémir ensemble et explorer d'autres territoires et d'autres explorations et d'autres pratiques sexuelles, sensuelles, et surtout autour du lâcher-prise, parce que ça parle de différentes... de s'abandonner et de souffrir. Voilà.
Le lâcher-prise, donc de ce qu'on a dit, effectivement, du genre, le genre, peu importe, finalement, ça dépend surtout de ce qu'on gère au quotidien, ce qu'on a envie justement de lâcher, pour se sentir bien et épanoui dans cette pratique. Féminisme et BDSM, est-ce compatible?
Alors, complètement. Non, mais au risque d'être un peu dans la controverse, complètement. Pourquoi? Parce que le féminisme pose un cadre et des limites sur ce qui est possible. Le BDSM n'est que cadre. Et pose d'un cadre et négociation et possibilité de d'inverse de possibilité de voir ce que ça me fait, comment ça me fait. Je parle d'une pratique qui va dans ce protocole, c'est-à-dire qui rentre vraiment dans des règles, des négociations, comme on l'a vu en début d'entretien de l'interview. Donc, pour moi, le féminisme et le BDSM n'ont rien de contraire, mais se retrouvent dans je reste cette personne qui se bat pour asseoir des droits, aller vers mon désir, et je ne perds pas de ma qualité de combattante, de guerrière, de ma posture qui est alignée, qui est je dis ce que je fais ce que je dis, dans aller explorer ces facettes de moi qui peuvent être ces facettes qui peuvent être de l'ordre de c'est quoi aller dans quelque chose de plus yin, plus réceptif, ou alors de plus yang. Et au contraire, c'est une possibilité d'aller explorer son potentiel d'une façon plus en confiance, avec un cadre très sécure. Ouais. Féminisme et BDSM n'ont rien d'incompatible, parce qu'une personne engagée, une femme engagée, peut tout à fait, au sein de son couple, se laisser aller à explorer tout plein de facettes qui ne sont que des facettes d'elle-même, et à les regrouper une fois qu'elle sort de ce protocole, et pour aller se retrouver dans son couple à l'extérieur avec toutes ses facettes, en ayant exploré toutes ses facettes et en sachant que là, ça fait du bien de se laisser aller, là c'est mieux de reprendre le contrôle, et au contraire d'aller dans une exploiter son potentiel. Donc ça n'a rien d'antinomique.
C'était un point qui méritait d'être précisé. Et à quel moment la pratique BDSM peut-elle devenir problématique? Donc on parle effectivement du non qui n'était pas entendu par le partenaire, ça c'est vraiment une des règles principales. Y a-t-il d'autres cas de figure?
Oui, rentrer dans le BDSM pour faire plaisir à son partenaire. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est plus votre désir, c'est un désir d'être aimé. Et dans ce désir d'être aimé ou de fusionner avec l'autre pour elle ou pour lui, ça va souvent annihiler, en quelque sorte, écraser son envie ou son désir au profit de l'autre. C'est une suradaptation. Et dans la suradaptation, souvent, peut se recréer des scénarios qui ont déjà été vécus auparavant et qui peuvent être très douloureux une fois que ça se remet en place. Parce que l'idée, c'est oui, mais il va bien voir que je souffre. Il ou elle va bien voir que ça ne me va pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu que ça ne me convenait pas? Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ce truc qui n'était vraiment pas qu'elle ne fait jamais? Non, l'autre n'est pas médium.
Ouais.
Et ça peut être extrêmement douloureux et vous amener d'ailleurs en thérapie, parce que ça vient réactiver des souvenirs, voire des traumas, voire des abus sexuels. Donc, attention.
Et briser la confiance, j'imagine, du coup, au sein du couple.
Exactement. Et parce que ça sera fait sur une demande de prise de responsabilité de l'autre envers les besoins de son ou sa partenaire. Et donc, peut se rejouer un scénario qui a été extrêmement qui a engendré de la souffrance auparavant, voire une amnésie, voire une dissociation, voilà quoi.
D'accord. Et un couple peut-il s'épanouir si l'un des deux ne veut pas justement suivre son conjoint dans cette pratique-là?
Ça s'appelle la frustration, et comment l'un ou l'autre gère sa frustration et ce qu'il ou elle fait. Donc, ça parle de la gestion de ce que je n'ai pas et de ce que ça va manquer. Qu'est-ce qui me manque et à quoi ce manque me rappelle? Donc, ça dépend de la frustration et comment on gère la frustration. Si l'autre te dit non, j'y vais pas parce que tu as envie d'y aller, et donc ça devient des représailles, ça raconte une histoire de couple. Si je dis non, moi je me respecte, je ne peux pas y aller, ce n'est pas pour moi, mais on va commencer autrement, et il y a négociation et il y a une communication dans le couple, à mon avis, la gestion de la frustration sera bien plus facile que « non, mais t'es complètement pervers avec ton truc, ça veut dire quoi ? Mais où t'as pris ça ?» Et donc, il y a une part critique qui répond à la place d'une ouverture qui fait
ouais. « Ah,
tiens, ça parle de quoi ? Qu'est-ce qui manque ? Ça t'amènerait quoi ? Ok, là, je suis pas prête, mais… »
Partir sur autre chose, peut-être.
Autre chose, ou pourquoi pas.
Changer un petit peu. Ou...
Voilà, ou tu veux vraiment être fouetté. Bon, bah, ok, je vais prendre une plume et je vais te caresser les fesses et voir ce que ça fait et commencer dans ce jeu-là, quoi.
Ouais, proposer peut-être des jeux, effectivement. Et justement, j'allais sur la question suivante. Il y a des couples, j'imagine, donc, qui ont envie de se lancer, qui viennent vous voir, vous consulter. Quels sont les tout premiers conseils que vous pouvez donner à ces couples-là, s'il y en avait un ou deux ?
De faire du CCCC. Hein. Enfin, de faire.
C'est-à-dire
de pratiquer l'essai. La communication. Est-ce qu'il y a ce contrat de confiance entre vous ? Alors, qui est-ce qui vient dans mon cabinet ? Je dirais, c'est vous, madame, c'est vous, monsieur, ou c'est vous, monsieur, c'est vous, monsieur, ou c'est vous, madame. Qui est-ce qui vient ? C'est la demande vient de qui ? Et par quel, qu'est-ce qui est activé dans le couple ? Donc, communiquer. Hein, communiquer sur aussi les attentes. Qu'est-ce que ça pourrait amener ? Et si j'étais, et si tu me laissais te dominer, ça peut aussi parler du couple qui est, ben, j'aimerais prendre plus de place dans le couple. Mmh. Et si tu t'occupais de moi, ça parle aussi de prendre moins de responsabilités dans le couple. Donc souvent, une pratique peut attirer, ce n'est pas tant la pratique que la représentation de la pratique. C'est-à-dire oui. La représentation de « je ». Du coup, je te prendrai moins en charge, c'est toi qui me prends en charge. Du coup, c'est toi qui t'occupes de moi plutôt que ça soit moi qui t'occupe de toi.
Et donc, c'est... Du coup, il y a des petits messages qui peuvent passer par là. Ouais.
Et c'est très intéressant de voir ces petits messages qui passent par une pratique et quand ils sont écoutés, ce n'est pas forcément la pratique qui est la demande. C'est ouais. La voie d'accès à d'autres possibilités de se laisser aller.
Et, donc, oui, et de changer un petit peu la relation même au quotidien, finalement, une fois que les choses sont dites.
Ouais. Et de répartir les charges différemment, et de ne plus toujours voir, d'avoir un bandeau sur les yeux, de pouvoir ressentir différemment, de changer la possibilité de se séduire. Ça parle de ça aussi.
Ça déclenche justement la communication qui est si importante et dans la vie en général et bien sûr au sein du couple. Pour les personnes justement qui ont du mal à accorder leur plaisir ou tout simplement à s'épanouir dans leur vie sexuelle, il ne faut pas hésiter, surtout à consulter une ou un sexologue. Comment faire pour vous consulter, par exemple ?
Alors moi, j'ai en visuel, j'accompagne des couples et en individuel depuis fort longtemps maintenant, avec une, par exemple par Skype, exactement ce qu'on est en train de faire, hein, donc par en visio. Je n'ai pas besoin d'avoir les personnes là. J'ai même parfois des Skype ou des visios avec un partenaire dans un pays, un autre dans un autre pays, et on
réunit ce joyeux monde.
Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est surtout, j'ai mon cabinet à Paris, dans le 15e. Et puis, j'ai aussi une pratique en clinique privée, en hôpital privé à Geoffroy-Saint-Hilaire, donc en Paris 5e. Et j'ai aussi mon cabinet dans le sud de la France. Donc voilà, je partage un peu mon temps entre la capitale et du côté de Grasse, donc la Côte d'Azur. Où je reçois aussi en individuel et en couple. D'accord, donc et puis après, il y a les stages.
Voilà. Et on peut effectivement donc, vous consulter de partout, donc en visio. Toutes les informations sont également sur votre site nathalie-giraud.fr. Vous tenez également donc, un site et un blog qui s'appelle pimentrouge.fr, je le disais dans l'introduction.
Pimentrose.fr.
Pimentrose.fr, excusez-moi. Pimentrose.fr. Pouvez-vous nous dire à qui il s'adresse, quel message il apporte ?
Alors moi, j'ai créé Piment Rose, ma société, en 2003, donc ça fait pas mal d'années maintenant, en 2003 pour détabouiser ce qui a trait au plaisir, pour pimenter la relation amoureuse, d'où Piment Rose, et aussi les deux polarités, le féminin et le masculin, le piment et la rose, le yin, le yang, l'animal, l'animus. Beaucoup d'infos et puis j'ai plusieurs univers, donc j'ai l'univers du tantra avec la sexualité sacrée, du plaisir masculin, du plaisir féminin, l'univers de la thérapie et puis Piment Rose qui est aussi autour des accessoires érotiques et des sex toys. Donc c'est plusieurs portes d'entrée et puis aller sur le site et voir les différents univers qui vous parlent, consulter les blogs, il y en a plusieurs, pour trouver la nourriture que vous avez envie de goûter, en quelque sorte.
Ouais, l'affinité.
Voilà, et je tiens un blog depuis 2006, donc il y a énormément d'articles sur des tas de sujets différents, vraiment beaucoup de sujets différents, et voilà, avec plutôt... quand je parle, c'est sans langue de bois, quoi, et plutôt simplement, je crois.
Le message passe directement, que le message soit compris. Très bien. Donc, tout... ouais.
Par les vidéos aussi, Émilie.
Et c'est important, oui, voilà. Tout à fait. Donc, toutes les informations pour vous retrouver, pour suivre vos travaux, dans le descriptif de la vidéo, donc on le dit, il y a votre site également, donc votre site et blog pimentrose.fr. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour répondre à nos nombreuses questions. N'hésitez pas à éventuellement donc, à commenter cette vidéo, à nous poser des questions, à laisser vos commentaires, on ne manquera pas d'y répondre lors d'une prochaine vidéo. Un grand merci.
Merci.
Bah, merci à toi.
Stage de contrat. Donc, du coup, j'ai le namasté, le merci.
Namasté. Et ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bye bye. Au revoir.